Bientôt 8h20 à Paris, votre invité Anne Verdaguer. Vous êtes en ligne ce matin avec le chercheur Franck Galland, spécialiste des enjeux sécuritaires liés aux ressources en eau.
Bonjour Franck Galland.
Bonjour.
Cet été en France, c'est le plus sec depuis 1961, avec un niveau des nappes phréatiques jugé préoccupant, une sécheresse qui touche de nombreux pays jusqu'à la Grande-Bretagne. Est-ce que l'eau va devenir une denrée de plus en plus rare dans les années à venir, dans des pays où cette ressource était jusqu'à présent considérée comme largement disponible ?
En France, selon les modèles, on estime que d'ici 20 ans, on va avoir une baisse du débit des fleuves de 10 à 20% et du niveau des nappes de 20 à 30%. Donc très clairement, l'Hexagone rentre dans un état de semi-aridité, comme le nord de l'Italie, qui connaît d'ailleurs depuis le début de l'année une baisse de pluviométrie de 60% et qui rencontre d'importantes difficultés économiques, puisque c'est surtout la plaine du Pô qui est touchée et qui concentre 40% du PIB italien.
Alors des conséquences économiques, en effet, vous êtes d'ailleurs consultant auprès des industriels. Cette sécheresse est un coup de semonce pour les entreprises. Elles vont devoir prendre des mesures drastiques pour économiser l'eau dans l'avenir.
Très clairement, les groupes industriels qui aujourd'hui représentent environ 10% des prélèvements d'eau brute, mais uniquement 6% des consommations, vont devoir s'adapter, vont devoir d'abord réduire leur empreinte en eau, la rendre plus transparente avec un reporting sur les consommations qui sont les leurs. Et ces entreprises, je pense surtout à l'industrie chimique, à l'industrie papetière, aux industries agroalimentaires, vont devoir intégrer des technologies usitées par ailleurs. Je pense à des pays comme les États-Unis, en Californie en particulier. Et c'est par exemple la réutilisation des eaux usées pour que ce soit des eaux grises qui rentrent dans les process industriels. Et il y a également le secteur énergétique qui est particulièrement préoccupant, l'énergie or. Énergie hydroélectrique, c'est 64% des prélèvements d'eau, mais uniquement 22% des consommations. Et là se posent des problèmes de durabilité de schéma, puisque pour refroidir nos réacteurs nucléaires, il faut de l'eau, il faut des débits autorisés, même si les prélèvements sont peut-être de 5 mètres cubes secondes pour certaines centrales, les rejets sont très importants, puisque le prélèvement induit un rejet quasi immédiat, mais il faut, pour pouvoir refroidir nos centrales, du débit. Et effectivement, des prévisions comme des débits de Meuse à horizon 2040 qui vont baisser de 40%, des débits de Moselle, des débits de Rhône, posent très clairement des sujets et vont imposer, par exemple, que des retenues puissent être construites pour faire du soutien d'étiage.
Ces enjeux liés à la raréfaction de l'eau, ils sont réels, vous nous en parlez ce matin. Et vous parlez d'une stratégie d'économie de la demande.
Alors, très très clairement, il va falloir agir sur l'offre, avec l'offre alternative, réutilisation des eaux usées, pourquoi pas des dessalement. Rappelons qu'une ville comme Barcelone est alimentée par une station de dessalement à hauteur de 200 000 mètres cubes jour. Mais il va falloir aussi jouer sur la demande. Sous nos pieds, on s'en rend pas compte, mais en France, vous avez 900 000 km de réseau. C'est 26 fois le tour de la Terre. Et en fait, ces canalisations, faut les renouveler. Aujourd'hui, on a un taux de fuite de 20%. Les objectifs du Grenelle 2 de l'environnement de 2010 fixaient un objectif de fuite à 15%. Vous voyez, on a quand même une marge de progression de 5% qu'il faut absolument atteindre. Et ça, c'est beaucoup d'investissements. On estime que pour pouvoir réduire encore ces pertes en eau, il faudrait investir quasiment 2 milliards d'euros par an. On n'est pas à ce chiffre-là. Et ça, il faut absolument jouer sur cette réduction de fuite, comme éduquer les populations pour éviter qu'elles ne consomment trop. À l'évidence, un bain utilise beaucoup plus d'eau qu'une douche. Se laver les dents, c'est éminemment important pour des raisons d'hygiène, mais il faut penser à fermer son robinet le temps du brossage, par exemple. Donc, ce sont tout un tas de petits gestes qui fait que effectivement, faut qu'on puisse jouer sur la demande en eau pour réduire cette pression sur les ressources.
Est-ce qu'il faut jouer également sur la question du partage de l'eau, qui est une question essentielle et qui pourrait venir se poser dans certains pays ?
Alors, bon, en France, c'est pas encore d'actualité. On n'a pas encore de conflit d'usage, même si l'agriculture, bien évidemment, est très très touchée. Et là, va se poser des problèmes de modification de culture, puisque l'agriculture aujourd'hui, 48% de l'eau consommée en France est à des fins d'irrigation, et donc vont se poser dans certaines régions effectivement le maintien ou non de certaines cultures. Mais ailleurs, à l'international, très très clairement, on a d'ores et déjà des conflits d'usage, on a des conflits locaux, des conflits régionaux, et malheureusement des conflits transfrontaliers.
Des conflits qui sont circonscrits dans certaines régions notamment ?
Bah écoutez, le problème c'est qu'on a une diagonale de la soif qui est en train de s'imposer, qui part du nord du Maroc, qui traverse l'Afrique du Nord, le proche Moyen-Orient et qui va sur la péninsule indienne. Donc tout ce grand ensemble géographique est touché par les conséquences du changement climatique qui s'exprime en température mais qui se manifeste en manque d'eau. Cette zone est touchée par des conflits aussi de haute intensité. Je pense au Yémen, je pense à la Syrie, je pense à la Libye, qui ont des conséquences sur la disponibilité en eau, puisque les infrastructures hydrauliques sont touchées de manière collatérale ou de manière directe par les belligérants. Tous ces pays sont soumis à une explosion de la demande. Regardons ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Le président Sissi est confronté à une véritable bombe démographique avec 120 millions de personnes à horizon 2030 et dans le même temps avec une très très importante menace hydrique qui est celle du barrage Renaissance en territoire éthiopien qui rentre progressivement été après été en phase d'exploitation. Et clairement, ce barrage en territoire éthiopien pose un problème de défense et de sécurité collective pour l'Égypte, car l'Égypte ne peut absolument pas se permettre une baisse du débit du Nil en entrée de son territoire, puisque 98% de son alimentation en eau potable dépend du Nil.
L'eau qui est donc un enjeu sécuritaire, on le voit, c'est le cas également en Ukraine aujourd'hui.
Dès le début de ce conflit qui endeuille l'Europe, qui endeuille ce pays, les infrastructures hydrauliques ont fait l'objet de ciblage. Les Russes ont dégagé le canal Nord qui alimentait en eau la Crimée, mais qui était bloquée depuis 2014. Les Russes ont ciblé des infrastructures sciemment, je pense à la ville de Mariupol. Vous savez que Mariupol, juste avant le conflit, avait investi massivement pour remettre à niveau ses infrastructures hydrauliques en eau, en assainissement. La France a investi massivement aux côtés de l'Ukraine, tout comme l'Europe. Et aujourd'hui, tous ces investissements sont réduits à rien, dans le sens où ils sont détruits. Et sans doute que cette ville, même si la paix intervenait demain, mettra près de 20 ans à se reconstruire. Très très clairement, des infrastructures hydrauliques qui n'existent plus aujourd'hui, des populations qui ne sont plus alimentées en eau, et surtout des hôpitaux, j'insiste là-dessus, parce que sans eau, on ne peut pas soigner les blessés. Et le chef des casques bleus syriens, au début du conflit en Ukraine, a dit que l'Ukraine vivait ce que la Syrie avait vécu sur l'espace d'une année. Et quand on voit les dégâts qu'ont subi des infrastructures hydrauliques, des villes entières, je pense notamment à la ville d'Alep, je pense à la Ghouta en banlieue de Damas, par des bombardements, les conséquences sur les infrastructures en eau ont été excessivement lourdes et les blessés n'ont pu être soignés dans les hôpitaux faute d'eau.
Merci à vous, Franck Galland. Très bonne journée.